Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Deux expositions, Francis Bacon au Centre Pompidou et Le Gréco au Grand Palais à partir du 16 octobre. Deux expositions, Jacques, sont l'occasion pour vous d'une réflexion sur le pouvoir des images.
Oui Clara, le Centre Pompidou a choisi l'angle littéraire d'ailleurs pour exposer les deux dernières décennies de la carrière de Francis Bacon, décédé en 1992. Et il est vrai, comme le souligne Itzhak Goldberg dans le Journal des Arts, qu'à partir de 1972, on constate une mutation stylistique chez Bacon à la recherche d'une peinture immaculée. Sinon, l'univers bien connu du peintre est partout présent, un théâtre de la cruauté où des êtres sont confrontés à l'insoutenable, les personnages déformés, les visages distendus, les couples unis et désunis, les formes organiques qui perdent leurs contours, les voluptueux empattements d'un pinceau lourdement chargé forment un espace où la matière picturale se confond avec les amas de chair. Fin de citation. Les références littéraires du peintre sont donc évoquées, les tragédies d'Eschyle, la poésie d'Eliot, les romans de Conrad ou les écrits de Michel Léris et de Georges Bataille. Ce dernier est sans doute d'ailleurs celui dont la pensée consonne le mieux avec l'inspiration érotiquement trouble de Bacon, tout en rappelant des archétypes quasi universels. Ainsi, le thème iconographique de la crucifixion et le format du triptyque qui lui est lié. L'artiste refusait cependant de voir dans ses œuvres une forme d'illustration, tout en admettant que ces images archétypiques avaient ouvert les valves de des sensations. Dans une belle et érudite méditation sur le composé instable des images entre mémoire et présent qui vient de paraître au PUF sous le titre Nymphe, Giorgio Agamben revient sur ces figures mythologiques que la tradition à la fois picturale et théologico-philosophique a érigées en symbole du pouvoir paradoxal des images. En l'occurrence, l'aspect spectral de toute image, peinture ou photographie, qui remue nos consciences en nous faisant toucher du doigt le phénomène mystérieux du temps qui passe, a été théorisé par le philosophe et alchimiste du XVIe siècle Paracelse, et notamment sur le cas de figure des nymphes, divinités associées à la nature, en particulier à l'eau, les ondines. Elles ne sont pas d'origine humaine, tout en présentant des formes plus qu'humaines grâce auxquelles elles peuvent s'accoupler et engendrer. Paracelse se rattache ici à une autre tradition, plus ancienne, note Agamben, qui liait les nymphes au règne de Vénus et à la passion amoureuse et qui est sans doute à l'origine du terme nymphomane. Les nymphes sont une sorte d'ombre ou d'image qui représente pour les poètes de l'amour comme Dante le moment où le fantasme communique avec l'intellect. Pardon. Dans quelques passages décisifs de la Divine Comédie, notamment le Purgatoire, où elle constitue une sorte de seuil entre les paradis terrestres et célestes, le poète appelle nymphe l'objet de l'amour, lequel reste exposé au risque de l'angoisse et du manque. C'est ainsi qu'au terme d'un parcours qui va de l'exposition vidéo de Bill Viola au Getty Museum de Los Angeles, intitulée Passion, aux recherches d'Abby Warburg sur la persistance rétinienne et la vie posthume des images, passant par Boccace et Walter Benjamin, Giorgio Agamben conclut son histoire de la relation ambiguë entre les hommes et les nymphes, comme celle de leur difficile relation avec les images. Je cite, « Les images sont le reste, la trace de ce que les hommes qui nous ont précédés ont espéré et désiré, craint et refoulé. » Ces seins blafards et extatiques se contorsionnant sous des ciels électriques ont inspiré autant Jackson Pollock que Pablo Picasso, résume Daphné Bétard dans un article du magazine Beaux-Arts à l'occasion de l'exposition El Greco qui s'ouvre au Grand Palais le 16 octobre, la première rétrospective française de ces délires extatiques. On ne peut oublier les figures déformées ou en proie à la panique, dépeintes dans des couleurs vives, presque fluorescentes, dans des compositions dramatiques et théâtrales. Ces couleurs, donc, c'est la trace de son passage à Venise où le colorito triomphe sous les coups de pinceau audacieux de Titien, Tintoret et Véronèse. Venu de Crète, le peintre va triompher dans l'Espagne du siècle d'or et de la contre-réforme. L'article comporte l'analyse d'une œuvre, la vision de Saint Jean, vision d'Apocalypse, qui évoque notamment l'art de la contre-plongée extatique pour exprimer la transcendance, les ciels si caractéristiques de Gréco, chargés, tourmentés et tout en contraste, semés de faisceaux de lumière blanche faisant écho au corps livide des martyrs, figurent ici la colère de Dieu. La dernière livraison de la revue Dada, la première revue d'art que vos enfants peuvent partager avec vous, est consacrée à El Gréco. Un dossier très complet qui évoque aussi le rôle de la couleur, notamment dans la vision de Saint Jean, mais également les démêlés du peintre avec les autorités ecclésiastiques, principales commanditaires à l'époque, souvent choquées par ses audaces, sur un marché de l'art très concurrentiel qu'elle dominait complètement.